Orient Hebdo, Éric Bataillon.
C'est un film tourné comme un road movie au Maroc sur les traces des saints. Ziyara est une pratique populaire commune aux juifs et aux musulmans de ce pays. Si la plupart des juifs ont quitté le Maroc, leurs saints sont toujours présents. Derrière sa caméra, Simone Bitton retrace les liens, accueille des anecdotes, des sourires, obtient hospitalité et bénédiction. On ressent dans ce film une nouvelle complicité entre filmeuse et filmé. La documentariste, qui vit entre Paris et Rabat, où elle est née, nous avait donné plusieurs films sur le conflit israélo-palestinien. Un portrait du poète Mahmoud Darwish en 1998, Mur en 2004 ou encore Rachel en 2009. Elle ne peut donc retenir un commentaire sur cette question dans notre entretien que nous avions diffusé en novembre dernier lors de la sortie en salle de Ziyara. Bonjour Simone Bitton.
Bonjour Éric Bataillon.
Documentariste, votre nouveau film s'intitule Ziyara et c'est un road movie à travers le Maroc, pays de votre enfance. Simone Bitton, Ziyara, ça veut dire le voyage ou le pèlerinage, comme par exemple celui que font les musulmans à la Mecque. Dans votre film, c'est un voyage vers quelle destination ?
Je pense que ça veut dire exactement « visite ». Et par extension, c'est un mot qui est utilisé pour le culte et effectivement pour le pèlerinage. Au Maroc, c'est utilisé vraiment pour le culte des saints. Voilà.
Et ces saints, justement, alors, qui sont-ils?
Les saints, c'est un peu une spécialité nord-africaine, même s'il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs dans le monde arabe, mais au Maghreb, on en a quand même beaucoup. Alors, ce sont soit des rabbins, soit des hommes pieux, des sages musulmans, des soufis, des kabbalistes, des légendes. Parfois, il n'y a personne. En principe, c'est un tombeau, mais parfois, il n'y a pas de tombe. Ce qui fait penser que ce sont des croyances très anciennes, avant même les monothéismes. Ça peut être une source, un arbre. Mais enfin, il a un nom. Et souvent, il y a une petite coupe. Voilà, le paysage est parsemé de petites coupoles de marabouts et de saints au Maghreb et beaucoup au Maroc. Mais parfois, il n'y a rien du tout. Parfois, il y a un arbre et les gens y vont.
Voilà. C'est juste un souvenir.
C'est un lieu sacré. Mmh. Voilà.
Est-ce un film pour montrer plutôt que pour démontrer la présence ancestrale juive ?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire ça montre surtout les lieux et les gens, mais ça démontre de manière, je l'espère, assez légère que des juifs, il y en avait beaucoup au Maroc, il y en avait partout, y compris dans des endroits très très reculés. Et puis surtout, ça montre et ça démontre et ça raconte que nous avions des saints partagés entre juifs et musulmans et que ces lieux sont toujours gardés. Même s'ils sont parfois en ruine, il y a quand même encore un gardien qui est souvent le fils ou la fille de l'ancien gardien. C'est une tâche, une mission qui se transmet en héritage. Et que donc, c'est pour ça que je dis que ce film, c'est une visite que je fais aux gardiens musulmans de ma mémoire juive. Parce que ce sont des musulmans qui gardent les saints et les ancêtres et tout ce qu'on a laissé derrière nous.
Justement, est-ce que c'est une tradition bien ancrée parmi ces familles musulmanes qui gardent ces lieux ?
Pour la plupart, oui, c'est très souvent, et plusieurs des personnages du film le racontent, oui, c'est quelque chose qu'ils reçoivent en héritage. C'est-à-dire, par exemple, le gardien du cimetière, il habite dans le cimetière, donc c'est un de ses descendants qui va reprendre la charge, mais il habite là, donc il a reçu ça. Et dans les sanctuaires, c'est pareil, pas toujours, mais la plupart du temps, ça se transmet en héritage, oui. C'est une sorte de petit métier qui allie ces gens-là. Ils habitent là et ils prennent soin du lieu.
Est-ce que ce gardiennage, si je puis dire, de ces lieux saints par des musulmans existe parce que la présence juive aujourd'hui au Maroc est anecdotique ?
Peut-être un peu plus. Il devait y avoir des lieux où le gardien, qui est une sorte de bedeau, était juif. Donc, il doit y en avoir certains. Mais pour la plupart, je vous dis non, non, c'est vraiment, pour les cimetières en tout cas, c'est frappant. C'est vraiment quelque chose qui passait de père en fils.
Et le fait que ces endroits particuliers soient disséminés à travers tout le Maroc montrerait que la présence juive est très ancienne. On sait d'ailleurs que berbères et juifs sont les occupants initiaux du Maroc bien avant les invasions arabes.
Alors, c'est sûr que la présence juive est très ancienne. Maintenant, il y a a une querelle de sages et d'érudits entre, en gros, est-ce que c'est le judaïsme qui est arrivé ou est-ce que c'est les juifs qui sont venus. Ça, voilà, on ne saura jamais. Puis c'est des vagues successives. Au Maroc, on fait un peu la distinction entre les juifs andalous, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés d'Andalousie plus tard, et les juifs autochtones, qui étaient effectivement pour la plupart berbères, mais qui ont sans doute cela embrassé le judaïsme plutôt qu'être arrivés d'ailleurs. Mais enfin, on ne sait pas très bien, moi j'en sais rien, je m'en fous un peu. C'est sûr que c'est une communauté très ancienne, que de toute façon les juifs qui sont venus d'endroits différents se sont mélangés entre eux. Moi je ne saurais pas vous dire si je suis d'origine plus andalouse que berbère et je m'en fous, mais c'est bien sûr, je suis sûr et je ressens très fortement ma marocanité, ça oui.
Votre film, Simone Bitton, est parsemé de photographies d'amateurs, mais d'aucun film d'archives. Ouais. Pourtant, il doit y en avoir. Pourquoi ?
Oui, j'ai visionné des films d'archives. Il y a pas mal d'archives coloniales, hein. Je ne trouve pas d'autres mots, dans quelques centres d'archives français. Les Juifs du Maroc, alors c'est un peu toujours la même chose. On voit le bijoutier, voilà, des petits métiers. En général, ils ont des nez crochus. Enfin, elles sont assez déplaisantes, je dois dire, la plupart de ces archives. Et puis, pas très intéressantes. Les gens posent...
Stéréotypées ?
Ouais, stéréotypées, avec souvent des clichés soit très orientalistes, soit un peu antisémite, quoi. Et il y a aussi des archives sionistes, c'est-à-dire le mouvement sioniste a filmé, en le mettant en scène assez grossièrement, le départ des juifs de certains villages où on voit tous les juifs se lever ensemble avec, en portant le rouleau de la Torah, monter dans un camion. C'est mis en scène, c'est trop beau pour être vrai, quoi. C'est trop ordonné. Donc j'ai assez vite abandonné l'idée de les utiliser. Je trouvais aussi que c'était un... Cinématographiquement, c'est beaucoup plus intéressant de faire sentir l'absence ou le temps qui passait sans forcément utiliser d'archives. J'ai vraiment essayé de faire ça dans ce film, de faire surgir les souvenirs sans montrer l'image. Mais j'ai utilisé quelques photos, oui. Mais ce sont des photos, en général, de famille, des photos prises par des juifs, par eux-mêmes, des photos de cérémonies, de choses à la synagogue ou de mariage. Il y en a très peu. J'en fais un usage très parcimonieux. Et vraiment, chaque photo qu'on voit dans le film, elle est prise à l'endroit même. Voilà, du plan qu'on vient de voir ou qu'on va voir.
Oui, vous avez créé une sorte de mimétisme entre le passé, voilà, la mémoire et aujourd'hui.
J'ai essayé de faire surgir les juifs, de les refaire, de les ramener là où ils ne sont plus, voilà, par
et
l'image.
Et vous retrouvez aussi sur une tombe trace de votre passé, bah, personnel.
Il y a mon nom. Mon nom, il est dans tous les cimetières juifs du Maroc. C'est un nom très commun. Il y a des Bitton partout. Celle que j'ai mis dans le film, c'est pas quelqu'un, je sais pas qui c'est. Ça doit être quelqu'un proche de ma famille, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas une tombe particulière sur laquelle je suis allée me recueillir. Mais c'était plus pour montrer le nom Bitton écrit partout. Et dans chaque cimetière où j'allais, je demandais est-ce qu'il y a des Bitton. Et en général, ils me répondaient tous oui, oui, j'ai des Bitton, j'ai des Moïse Bitton, j'ai une Malka Bitton, j'ai une Flore Bitton.
C'est comme Dupont au Martin, en quelque sorte.
Presque.
Presque. Outre les lieux de mémoire, Simone Bitton, vous filmez également beaucoup les paysages. Est-ce pour montrer la beauté du Maroc ?
Le Maroc est beau. Hein, on peut pas, c'est difficile de dire le contraire. C'est presque un problème pour la cinéaste que je suis, pour la documentariste que je suis, parce qu'il est beau. C'est un pays de peinture, hein, de lumière, mais il n'est pas que ça. Il est aussi, c'est un pays où il y a des campagnes très pauvres, des routes défoncées, dès qu'on sort des villes impériales et de leurs magnifiques palais, monuments et médinas très colorés. Et moi, je suis une documentariste, c'est-à-dire même si je parle du passé, je filme le réel. Nous filmons toujours le présent. Donc, je pense qu'il y a dans le film, mais c'est pas voulu, c'est comme ça. Comme je vais à la fois dans des villes et dans des endroits reculés, eh ben, on voit le Maroc un peu tel qu'il est, et y compris des endroits qui sont vraiment très loin de la carte postale. Mais...
Beau, mais contrasté.
Beau, mais pas forcément clinquant, pas brillant. Voilà. Le Maroc n'est pas fait que de palais et de riades et de jardins riants.
Orient Hebdo sur RFI.
Simone Biton est l'invitée d'Orient Hebdo ce dimanche à l'occasion de la sortie en salle le 1er décembre de son film « Zia ». Pour vous, Simone Biton, qui avez vécu votre enfance au Maroc, ce film est-il l'occasion de renouer avec votre pays natal ? On vous entend en voix off dans le film et pas uniquement en français.
Oui, le film est majoritairement en Darija, qui est le dialecte local, le dialecte marocain, qui est un arabe matiné de beaucoup de mots berbères, français, espagnols, locaux. Il y a une Darija par ville, par région.
Et moi, c'est... Que vous parlez ?
Je pensais ne pas la parler, c'est-à-dire c'est une langue que j'ai entendue pendant toute mon enfance. J'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est la langue que mes parents parlaient entre eux en pensant que nous, les enfants, ne la comprenions pas parce qu'on nous a envoyés dans des écoles françaises. Je la comprenais plus ou moins quand j'allais au Maroc, mais je n'osais pas la parler parce que j'étais sûre que je la parlais trop mal ou que je ne la parlais pas du tout, quoi.
Mais est-ce que ça vous a aidé dans le tournage de votre film de la parler ?
Quand j'allais dans ces sanctuaires et dans ces lieux, la plupart des gardiens sont des gens très humbles, très modestes et ne sont pas ou très peu francophones. Ou alors ils parlent vraiment un français très... Pour les mettre à l'aise, moi je voulais qu'ils parlent dans leur propre langue, en dialecte. Et donc au début j'avais un traducteur ou bien... Et puis je me suis rendu compte que voilà, c'est sorti. Voilà, la langue est revenue. Je dis que c'est un miracle. Moi qui suis une parfaite mécréante, tout en étant très attachée à ma judaïté, mais je ne suis pas croyante, et la langue est revenue.
C'est un miracle, c'est ce que vous dites dans votre film.
C'est un miracle, oui. Ma langue m'est remontée aux lèvres, et quand une langue revient, c'est tout un monde qui revient, et puis surtout, vous êtes une sœur pour les gens avec qui vous parlez. Donc je pense que ça a établi une complicité beaucoup plus forte et sincère que la simple hospitalité marocaine qui s'exerce à l'égard de n'importe qui. Le Maroc, c'est le pays de l'hospitalité.
Est-ce que vous êtes reconnecté en quelque sorte à la fois avec le Maroc et puis aussi avec ces lieux que vous avez visités, ces lieux saints ?
Oui, par la langue, par l'accueil surtout. J'ai retrouvé un sentiment de fraternité avec les musulmans que je pensais un peu comme la langue, qu'il était passé de ce monde. Voilà. C'est quelque chose que j'ai connu dans mon enfance et que je n'étais pas tout à fait sûre qu'il existait encore. Et avec ces gens qui gardent les tombes de mes ancêtres, oui, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé une fraternité, je ne vais pas employer de grands mots, de trop grands mots, mais une fraternité judéo-musulmane qui paraît aujourd'hui être un anachronisme total. Les gens ne s'imaginent pas à quel point nous étions proches. Nous étions très très proches, vraiment.
Ce n'est pas la première fois que vous tournez au Maroc.
Non.
Est-ce que c'est votre film plus personnel ?
C'est un peu plus personnel. Et puis on m'y entend, pas pour dire une voix off, mais on m'y entend parler avec les gens, même si on m'y voit pas. J'ai fait pendant le tournage des gestes pareils qui me sont revenus avec la langue, qui étaient les gestes de ma mère, de ma grand-mère, de mes tantes. Le geste, et qui est un geste très marocain, le geste d'allumer une bougie dans le sanctuaire d'un saint, c'est un geste à la fois juif et musulman. Hein. On allume une bougie et puis on communie là avec la nature et puis on se console de ce qui ne va pas dans nos vies personnelles. J'ai retrouvé ça, vraiment. Et ça n'a rien à voir avec la religion, vous savez. Et quelqu'un le dit dans le film d'ailleurs. Vous savez, les rabbins et les imams, ils n'aiment pas beaucoup les saints. C'est pas du tout, ça ne fait pas du tout partie du culte, ni du judaïsme, ni de l'islam. Et c'est un peu une hérésie, mais ils n'y peuvent rien, c'est trop fort. Ce sont des traditions populaires tellement fortes qu'il vaut mieux les récupérer et les faire siennes que les combattre. Il y a eu des rabbins très rigoristes et des imams, et il y en a encore sans doute, qui combattent ce genre de pèlerinage. Mais c'est trop fort, la tradition est trop ancrée, elle est trop forte. Les gens ont besoin de ça. Donc j'ai retrouvé ça, et effectivement on n'a pas besoin d'être croyant. Moi-même, à Marseille, quand je suis à Marseille, j'aime bien aller faire un tour chez la Madone. C'est beau, les saints ont bon goût. Ils s'installent en général dans les plus beaux paysages, en hauteur. Ils protègent une ville ou une vallée ou une région. Et en général, c'est bien, quoi. Ils choisissent bien leurs endroits.
C'est la culture dans toute sa splendeur.
Ouais, la culture populaire.
Vous avez beaucoup tourné en Palestine et en Israël. Aller au Maroc, était-ce pour vous l'occasion de prendre du recul par rapport au travail que vous menez depuis une trentaine d'années ?
Le recul, j'espère en avoir toujours eu, de la rigueur en tout cas. Je dirais que le Maroc a été pour moi, et toujours, une consolation de ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est une des choses dont il fallait que je me console en allant filmer dans ces lieux, parce que ça va très mal. ça va très mal, la Palestine. C'est une période affreuse. Je ne sais pas si nous en avons vécu de plus affreuse. La justice et la paix paraissent plus éloignées que jamais. Rien n'a marché. Donc moi, ça m'attriste beaucoup. Et le Maroc, qui est à la fois mon pays natal et ce lieu où il y a encore la trace, mais aussi un présent encore de fraternité possible entre juifs et musulmans, ça me console forcément. Et j'espère que ça peut consoler mon public fidèle, je l'espère, qui me suivra dans cette nouvelle aventure.
Néanmoins, sur le plan politique, si on peut aborder cette question, aujourd'hui, il y a un rapprochement, par exemple, entre Israël et les pays du Golfe, notamment les Émirats.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Moi, j'ai fait ce film sans aucune relation avec tout ça. D'ailleurs, il est terminé depuis un an et demi, bien avant qu'il y ait ces accords qui ne me font pas particulièrement plaisir. On ne peut pas être contre des accords de paix, mais le fait qu'ils laissent les Palestiniens complètement de côté, comme s'ils n'existaient pas, comme si c'était un détail. De toute façon, ces pays n'ont jamais été en guerre avec Israël, ni le Maroc, ni Bahreïn, ni les Émirats arabes. Donc, ils n'ont pas signé de paix. J'aurais espéré qu'ils conditionnent ces accords par quelque chose pour les Palestiniens, par un peu plus de justice, un peu moins d'occupation, un peu moins de colonisation, enfin quelque chose. Or, rien n'a été demandé. Voilà. Donc moi, ça ne me fait pas particulièrement plaisir et je pense que ce n'est pas bon à long terme. Il n'y aura pas de paix en Palestine sans un minimum de justice. Et cette justice, il faut l'imposer. Et pour l'imposer, il faut justement, par exemple, quand on s'apprête à avoir un accord commercial avec Israël, en profiter pour l'obliger à lâcher un peu de lest, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Donc je pense que ces accords ne servent à rien, sinon à renforcer encore les puissants. Et ce n'est pas de ça dont on a besoin. Sur le principe, je ne suis pas contre. Au Maroc, de toute façon, c'est la réparation d'une hypocrisie, parce que les relations sont très anciennes et n'ont jamais cessé.
Simone Bitton, votre film Ziyara a été présenté dans de nombreux festivals. Il a d'ailleurs été primé à Milan l'année dernière, je crois. Est-ce important pour vous qu'il soit diffusé en salle, qu'il soit projeté aussi ailleurs qu'en France, au Maroc et peut-être ailleurs au Maghreb ?
Il sera diffusé à la télévision au Maroc en janvier, à la mi-janvier, avec une seule projection en salle, parce qu'il n'y a plus beaucoup de cinéma au Maroc. Et puis c'est surtout, c'est l'épidémie, la pandémie. Enfin, le film a eu très peu d'expositions internationales par rapport à ce qu'on aurait espéré, à ce qu'on aurait sans doute eu il y a 2 ans. Voilà, il s'est terminé, j'étais en post-production au premier confinement, et puis ça fait 1 an et demi qu'il attend de sortir en salle, aussi en France. Il y a un tel embouteillage de film, donc c'est une sortie assez modeste, mais je m'estime heureuse de l'avoir quand même, parce que j'ai des amis qui ont fait des films à cette période, qui n'arrivent même pas à sortir du tout. On est dans une période très très difficile pour le cinéma d'auteur indépendant, un peu fragile, documentaire. C'est très difficile pour nos distributeurs et pour nous. Donc c'est un grand bonheur que le film... c'est un film de cinéma, il a été fait pour le cinéma. C'est un film où le paysage est un personnage à part entière. Ça me fait beaucoup... ces festivals internationaux dont vous parlez... j'étais contente de montrer mon travail, mais en même temps, c'était très triste, c'était même un traumatisme. Enfin, ma première internationale, c'était au grand festival documentaire d'Amsterdam, l'ITFA, qui est un des plus grands festivals documentaires du monde. C'était ma première mondiale et j'étais seule devant mon écran à Paris, avec un verre de champagne, certes, mais seule devant mon écran. Voilà, c'est dur. C'est quelque chose qui est complètement contre nature pour nous et puis pour le public. Et j'espère qu'ils vont reprendre l'habitude de retourner voir des films en salle.
Merci Simone Bitton.
Merci Éric Bataillon.
Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. Pour nous réécouter, une adresse RFI.fr, une application Pure Radio. À demain pour un nouveau numéro de notre série consacrée à la guerre d'Algérie. Prenez soin de vous.
Appelez-nous.